bus taxi of the tool. Mind the gap. We did crime, now we climb the map. Check how I spit rhyme to rap. Yes, yes, it all starts with a sketch. Snapshots, motion pictures, and special effects. We stretch the game out, expand the nation. This is verbal anime, graphic animation.
Oh, Herbalizer, UKCALA all day.
From imagination comes to illustration. Then we bring pictures to life, we call it animation. From imagination comes to illustration. Then we bring pictures to life, we call it animation.
I trade money at the combio, dollars for pounds. Massacre, musical murderer, I'm killing your sound. But hardly, softly, how's it feel to you now? I chew raw iron and I spit steel to the crowd. Magnetic attraction, don't repel. Now I attract retail, underground rebel. Dilated peoples, a few, the proud, the brave. Nice in the studio and live on stage. Drop so many balls, I leave the beat in the cage. Some are courageous, some afraid to turn a page. Grab a stack of rhymes, you can take a quick look and animate my lyric sheets like a flip book. Thoughts in effect, it all starts with a sketch. Snapshots, motion pictures, and special effects. Stretch the game out, expand the nation. This is verbal anime, graphic animation.
I knew that you would see it our way because we explained it very fully.
This is verbal anime.
I'm not going to get it notarized, but you accept what I said.
This is verbal anime. How graphic animation.
Well, a guy who...
in the corner, ignore it if you want, but remember that we warned ya. There in the basement, behind the furnace, feeding off all of your fear so I can flourish. Puts the shook in your bones, making all my noise when your parents ain't home. And if the bulbs burnt out in my underground lair, guaranteed you're gonna sprint back up them stairs. So go step by step by, let me get by. It's all in your mind, you do it every time. The dark you stare, is anybody there? Try to stay strong, pray for help. Well, you can bring that fear, I survive on it, I thrive on it. I'm alive as you allow when I climb out of your mind. To each your time, you can redeem your fear now. And all the white girls sing along. Smell it foul, but as hard as you try, you'll never see me proud. You can feel my touch to the heart and spine. Some have all the luck all the time. Fear that I might take your life. Fear that I might fuck your wife. When you hear a gun, you hear my voice. When you hear a crash, you hear my voice. That tingle on the back of your skull. Cut the edge off the sanity, the blade is dull. They gave their all, but I took a little more. Cause I made a promise that I would win this war. Cause I made a promise, I'm fear, motherfucker. Cause I made a promise, I'm here, motherfucker. The bams, the booms, the bumps in the night. When it's on, when it's on, all the white girls sing along. Get over it, get over me. You're the one that left me my opening. Forgot to put the lid down tight to the truth. So I climbed out to set myself loose. The only thing to fear is spirit. I'll kill you, love, money, God, and hell. I'll spill you, where do you put your trust? I'll kill you, my damn self. Is it within or is it with us? Is it breath or is it death? What in the name of God do you run from? Run for, run to someone, done for. Sit still and take it like the bitch you are. You can fight and resist, you won't get too far. You made me, all the power you gave me. Cultivate the hatred and fed it to the baby. Spent lifetimes pretending on a clue, but I'm a product of you. And now all the women sing along.
To the mud ring.
Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et on écoutait à l'instant le titre Fear du groupe Atmosphere, sorti en 2003 sur Chocolate Industry. C'est un groupe américain originaire de Minneapolis, composé de Slug, qui s'appelle en réalité Sean Daley, et de ANT, Anthony Davis, un groupe de hip-hop conscient que j'ai chopé sur une petite compile qui s'appelle Urban Renewal Program. Il y a vraiment du beau monde là-dessus. C'est plutôt du hip-hop vraiment pas grand public, un petit peu plus on va dire underground, dans le style hip-hop conscient en effet. Et il y a quand même des noms un petit peu connus, puisque là-dessus on retrouve Mos Def par exemple, ou alors Aesop Rock, ou pour les fans d'abstract hip-hop, Prefuse 73. Et puis bah, il va déjà être quasiment l'heure de se quitter.
Exactement, et en beauté, en plus en douceur, comme on a commencé l'émission, hein, avec Cube de glace. On l'a bien besoin en ce moment, là, des cubes de glace. Hein,
vous sentez que ça va être trop chaud dans le studio.
Voilà, donc ça va nous rafraîchir, ouais. Hein, avec donc un titre. Alors, Ice Cube, ventile-moi. Ice Cube, qu'on connaît bien, hein, qui avait débuté sa carrière dans NWA, qui avait fait des groupes comme Dallin's Mob ou Westside Connection. Mais on va écouter un titre issu de son premier album, le KKK's Most Wanted.
Oh yeah.
The Nigger You Love to Hate, tout un programme. On vous embrasse. On dit bah, ouais. Pas dans 15 jours, hein, dans un mois quasiment, parce que
Radio G est
en vacances. La coupure estivale.
Voilà, et donc on se finit là-dessus, sur Ice Cube.
C'est parti. Ouais.
En beauté, comme toute l'émission qu'on a fait.
Allez,
bam!
Gros bisous à tous, bisous. Bonne soirée.
Ciao, et bonne vacances.
Allez,
bonne
gros
vacances.
Gilbert.
I heard payback's a motherfucking nigga. That's why I'm sick of getting treated like a goddamn stepchild. Fuck a punk, cause I ain't him. You gotta deal with the 9-0-M. The dance coming at you all, hey, just think. And niggas decide to retaliate and try to keep me from running up. I never tell you to get down, it's all about coming up. So what do you going down to 8K? My shit wasn't registered any fucking way. So you better duck away, run and hide out. When I'm running real slow and the lights out, cause I'm about to fuck up the program. Shooting out the window of a drop top pro-ham. Well, I'm shooting, let's see who drop. The police, the media, suckers that went pop. And motherfuckers that say they too black. Put them overseas, they be begging to come back. They say people promote gangs and drugs. You wanna sweep a nigga like me up under the rug. Kicking shit, call street knowledge. Why more niggas in the pen than in college? Because of that line, I might be your cellmate. That's from the nigga you love to hate.
You ain't doing nothing positive, yo. You ain't doing nothing positive, bro. What you gotta say for yourself?
Once again, this song, the motherfucking psycho. Ice Cube, the bitch killer, cat killer. Yo, running through the line like voters, no pop the piss in. I put my fist in. Now who do you love to hate? Cause I talk shit and down the 8-ball, cause I don't break. You're begging, I fall off. The cross border might as well put them balls on and get your ass ready for the lynching. The mob is dropping common sense in. We'll gag in a pin, we'll shake anytime dick and hey, I get your ass breaking it about a right wrong you live, but how long you live. I ain't with the bullshit, I mean no bitches. No hoes don't wanna sleep, so I keep popping no dough. And tell the young people what they gotta know. Cause I hate when niggas gotta live low. And if you're locked up, I dedicate my style in. From San Quentin to Rikers Island. We got him afraid of the funky shit. I like the clowns, so bump up the sound. Me and Jeep make the old lady say, oh my God, wait, it's the nigga you love to hate. Yeah, come on, fool. It's the nigga you love to hate.
101.5 FM.
Il est 20h passé de 3 minutes et tout de suite vous allez pouvoir retrouver une nouvelle émission de Génération Sport, la première en direct depuis 3 semaines. Tout de suite, le générique. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours sur Radio G. Tout de suite, c'est l'heure de parler sport avec Génération Sport. Retour des vacances nous concernant et on se retrouve enfin pour une nouvelle émission en direct. Il y aura matière à débattre, mais avant de parler programme, je vais vous présenter l'équipe hein, qui est toujours l'équipe de départ, l'équipe qui n'a pas bougé. Alex est à mes côtés. Bonsoir Alex, comment tu vas ?
Eh bien ça va, bonjour à toi Max et bonjour à tous les auditeurs de Radio G.
Et à côté d'Alex, nous retrouvons également Cédric qui est à la régie aujourd'hui. Salut Cédric.
Salut tout le monde. Et oui, il n'y a eu qu'une semaine en fait où vous n'avez pas pu avoir une émission hebdomadaire. La semaine dernière, on en a profité que c'était le 13 juillet pour faire une petite rediffusion, comme vous avez pu vous en rendre compte.
Et donc aujourd'hui, gros programme, toujours pas par contre de chronique d'actualité sportive, mais voilà, vous verrez à la rentrée que cette chronique reverra le jour et repartira de plus belle. De notre côté, on a trois grands sujets à débattre. On va voir les Jeux Olympiques. 21 juillet, Il y a également eu l'Euro de football qui s'est achevé la semaine dernière avec une victoire finale des Italiens. Et puis on aura l'occasion de parler Tour de France également avec la nouvelle victoire de Tadej Pogacar. Par quoi on va commencer ? Par quoi allons-nous parler en premier, messieurs ?
Eh bien, on peut commencer par le Tour de France. C'est vrai que ce Tour de France a été quand même, on ne va pas dire rythmé, mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses. En tout cas, on a assisté à on peut le dire, la victoire d'un seul homme. C'était celle du Slovène Tadej Pogacar. Ça n'a pas été le seul Slovène qui a fait parler de lui sur ce Tour. On savait que également Primoz Roglic faisait partie des favoris. Mais il y a également un troisième Slovène, Matej Moric, qui a effectivement aussi représenté la Slovénie donc dans ce Tour de France et qui a empoché quand même deux étapes. Voilà, et puis surtout effectivement ça a été vraiment la victoire d'un seul homme, Tadej Pogacar, qui a remporté trois maillots sur ce Tour. Voilà, ils étaient deux seulement sur le podium final aux Champs-Élysées. Il y avait Mark Cavendish, maillot vert du classement à points, et puis pour les maillots de meilleur grimpeur, c'était Tadej Pogacar. Le meilleur jeune, c'était Tadej Pogacar, et évidemment maillot jaune, Tadej Pogacar, effectivement un jeune cycliste de 22 ans qui domine autant donc ce Tour de France. C'est vrai que c'est assez rare. On peut dire également peut-être qu'il a bénéficié de pas mal d'abandons de ses concurrents principaux. Je pense à notamment Chris Froome qui a abandonné rapidement, Primoz Roglic également qui au bout de à peine une semaine a dû abandonner ce Tour de France, et au final il n'y avait pas vraiment de concurrence. Il termine quand même avec 5 minutes d'avance sur son dauphin. C'est quand même assez incroyable de voir à quel point Tadej Pogacar a tout simplement illuminé le Tour de son talent et de sa capacité à monter les côtes à une vitesse phénoménale. Du côté des Français, on a une seule victoire, c'est celle de Julien Alaphilippe lors de la première étape où il s'est emparé directement du maillot jaune. Ce fut une belle victoire pour lui qui cherchait souvent à conserver son maillot jaune, etc., etc. Il y a également aussi le maillot jaune de la part du petit-fils de Raymond Poulidor. C'est donc Mathieu Van Der Poel qui donc a rendu hommage à son grand-père et qui est décédé d'ailleurs il y a quelques mois maintenant, et qui a donc remporté ce maillot jaune lors de la deuxième étape. Il l'a gardé quelques jours avant de le céder à Pogacar, qui l'a emporté jusqu'à Paris. Messieurs, justement sur ce Tour, voilà, on a fait un bref résumé. Quelles ont été vos sensations par rapport à ce Tour de France? Est-ce qu'il y a eu vraiment un engouement? Est-ce que ça a été un bon Tour? Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon Tour même s'il n'y a pas de concurrence pour un seul homme?
Alors moi je trouve que cette année, enfin, on se demande pourquoi il y a eu un Tour de France. Déjà quand tu sais qu'au départ il y a une grande majorité des coureurs qui avaient dit qu'ils n'iraient pas jusqu'à la troisième semaine parce que derrière il y avait les JO, j'ai envie de dire qu'est-ce qu'ils ont fait dans les équipes de convoquer ces mecs-là. Je veux dire, tu parlais de la belle histoire effectivement du petit-fils qui remporte un titre, mais enfin qui porte le maillot jaune.
Qui porte le maillot jaune.
Et qui fait une victoire. Et à la fin de cette semaine-là, je crois, il annonce faut que j'aille m'entraîner pour le cross, donc bye le Tour. Dans ces cas-là, t'as pas depuis le début, et puis laisse la place à un jeune, ça se trouve, qui aurait été deux fois plus méritant, qui aurait peut-être ramené le maillot à Paris. Il y a ceux, après, qui sont sortis soi-disant sur blessure, qu'on verra sûrement JO. Il y a eu les vraies blessures, hélas, mais ça, on va peut-être en reparler un petit peu. Après, une fois qu'on a fait un tour comme ça de notre ressenti. Mais ouais, ce Tour de France, cette année, m'a pas plus emballé que ça, quoi.
Toi, Max?
Je partage exactement le même avis que Cédric. C'était un Tour de France déjà très étrange parce qu'il y avait les Jeux Olympiques juste après. Mais surtout, ça a aussi joué un manque de challenger, en fait. L'année dernière, on avait eu un Tour de France vraiment très très cool avec la victoire finale de Pogacar sur la planche des belles filles, l'avant-dernière course. C'était lors du contre-la-montre. Et là, cette année, comme tu l'as dit, il a eu 5 minutes d'avance et ça fait très long. Enfin, ça fait de nombreuses étapes qu'il a toute cette avance, pardon. Donc oui, on n'a pas eu de défi dans ce Tour de France, et oui, c'était un peu chiant, quoi.
effectivement, ouais, il y a eu peu de suspense. En tout cas, c'est ça qu'on peut reprocher. Voilà. Et puis surtout, nous, Français, on aime bien suivre de beaux parcours et des victoires d'étape française. Et on a l'impression que, avec un Alaphilippe un petit peu plus dans le dur, on a eu beaucoup de mal à voir d'autres Français briller. Voilà. Je sais qu'il y a également, donc, Romain Bardet et Thibaut Pinot qui sont les figures du cyclisme français qui n'étaient pas là. Donc, effectivement, forcément, bah, voilà, ça laisse moins de possibilités pour le spectateur de s'ambiancer et de prendre plaisir à regarder cette très belle course. On en avait parlé un petit peu, Cédric, avant qu'on parte en vacances, mais on sait que Marc Madiot, qui est notamment entraîneur de l'équipe FDJ, qui disait que voilà, il y a eu pas mal de chutes. On sait qu'il y a eu pas mal de chutes au début de ce tour.
Même après,
il y a toujours eu quelques chutes, et il se plaignait justement des conditions de course qui étaient pour lui pas assez bien, en tout cas pas assez sécuritaire pour.
On peut même citer ses mots. Mm-hmm. Il a carrément dit qu'on envoyait les coureurs à la mort sur certaines étapes. Ouais. À certains endroits.
Avec des virages très compliqués à négocier. Il y a une des chutes, en tout cas la toute première, lors de la première étape, qui a fait beaucoup parler, avec le fameux panneau Aller au Piaomi, avec donc cette spectatrice qui se met en travers des coureurs et qui renverse absolument tout le peloton. C'était pas vraiment.
Cet endroit-là, déjà de départ, était quand même étroit pour le passage du peloton.
Étroit, après, voilà, ça reste à chacun d'être bienveillant. Quand c'est la faute des spectateurs, pour le coup, les organisateurs ne sont pas à blâmer. Mais pour le coup, effectivement, lors d'un virage, je crois que c'était la deuxième étape, où là c'était beaucoup plus compliqué, quand on voit le degré de virage et surtout l'étroitement de la route. Et on se dit qu'effectivement, peut-être qu'il n'y a pas forcément les meilleures routes qui sont prises par
après, sur, par sur cette étape-là, bon, y a eu le fait qu'il y a eu la grosse chute le premier jour, et encore, bon, alors c'est sûr, la spectatrice, effectivement, est en tort. Moi, je pense qu'il y a eu aussi un petit côté laxif des organisateurs qui auraient pu mieux protéger cette zone-là. Ne pas mettre de spectateurs, tu mettais des barrières, il y avait moyen de protéger mieux après, à cet endroit-là.
Pour moi, ça reste quand même la responsabilité de la spectatrice quand on voit les images.
Pour le coup, je peux. Alors oui, c'est la responsabilité de la spectatrice, mais la spectatrice n'avait pas à être là. Et donc, même si elle veut aller là, normalement, on aurait dû l'empêcher d'aller là et de faire ça. Donc, il aurait cet endroit, mais comme plein d'autres endroits sur le tour,
oui, comme d'autres endroits,
ne sont pas assez protégés. Quand on voit les étapes de montagne, il n'y a aucune protection. Les spectateurs courent littéralement à un mètre des coureurs, voire même beaucoup plus proche. Donc, oui, je pense que la responsabilité, elle est des spectateurs qui ont ce genre de comportement, mais les organisateurs aussi ne font pas leur boulot au bout, parce que ça ne devrait pas arriver, ce genre d'incident.
Et sur la deuxième étape, en fait, il y a la fameuse chute dans ce virage-là. Et je crois que juste avant, peut-être un kilomètre aussi avant, il y avait déjà eu une grosse chute, pareil, liée au parcours. Et ça, le problème, c'est que j'ai envie de dire, oui, c'est les organisateurs qui font le parcours. Sauf que le parcours est connu relativement en avance, généralement un an en avance. Les équipes ont normalement le temps de... En tout cas, si... Ils ne vont pas physiquement, avec tous les moyens technologiques qu'on déploie maintenant, savoir un peu comment est la topologie du virage, enfin des choses comme ça. Donc tout remettre pareil sur le dos des organisateurs, puis s'en rendre compte le jour J, je pense qu'ils le savaient d'avance que ce fameux virage était compliqué, qu'il allait être dangereux. Il y avait moyen d'en discuter largement en amont et peut-être modifier l'arrivée. Et après, le problème, c'est que. On le voit, alors effectivement, plus il y a des accidents aux cyclistes, plus on a l'impression que ça évolue pas. C'est un fait, hein. On en avait parlé avec cette chute en Pologne qui a fait coûter la vie à ce coureur. Mais dans le même temps, qu'est-ce que font les équipes? C'est plus d'oreillettes, c'est plus de consignes, c'est allez-y, faut bombarder, faut aller chercher cette
victoire
au sprint. Les gars, bah, ils lâchent tout, ils font pas gaffe, et puis voilà. Donc la responsabilité, bah, elle est
un peu tout le monde.
Elle est partagée, voilà, oui.
Les coureurs, les organisateurs et les spectateurs. En tout cas, c'est vrai que ça reste un tour avec beaucoup de chutes. On avait aussi beaucoup vu lors du Tour de France précédent, notamment une chute qui avait fait beaucoup de mal, notamment à Thibaut Pinot. Hein. Notamment, je crois que c'était à Nice où il y avait une violente chute hein, pour le peloton. Et effectivement, ça se retrouve un peu trop dans les circuits notamment du Tour de France, mais d'autres. Effectivement, c'est un petit peu dommage voilà, de voir tant de chutes qui gâchent un peu la course. Voilà, on pourra en parler peut-être plus tard. Également, un autre fait intéressant, je trouve, pour cette année, c'était le retour à son meilleur niveau de Mark Cavendish qui a remporté tout simplement 4 étapes de sprint. Il est parvenu à égaliser Eddy Merckx, ce qui est quand même assez incroyable au nombre d'étapes dans le Tour de France, avec donc 31 étapes gagnées depuis le début de sa carrière. Voilà, il a gagné donc l'étape à Fougères, l'étape à Châteauroux, à Valence et également donc à Carcassonne. Voilà, ça a été donc le renouveau pour Mark Cavendish, qui a bénéficié surtout d'un train de son équipe assez incroyable. Est-ce que ça a été, c'est pour vous messieurs, est-ce que ça a été la victoire avant tout d'une équipe qui a su le porter parfaitement pour ses sprints?
Ce qu'on avait déjà dit quand on avait discuté, c'est déjà derrière ça la belle histoire quand même.
Ouais.
Revenir comme ça après des années de galère et du coup d'égaliser Merckx. Je pense que ouais, c'est quand même du coup un travail d'équipe parce qu'il faut l'emmener pour aller faire le sprint final. Surtout que c'est pas voilà 3 victoires comme on voyait à une époque où les sprinteurs s'imposaient toute la première semaine et puis après on les voyait plus du tour. Là, ça a été sur les 3 semaines, je crois, ces victoires.
Ouais, il y en a une donc à la 13e étape, 10e étape, 6e étape et 4e étape. Ouais, c'est un petit peu parsemé effectivement autour des semaines. Puis bah, il était quand même également à la lutte hein, pour l'étape sur les Champs-Élysées. Donc effectivement ouais, en tout cas moi j'étais impressionné par le train que faisait la Quick Step, qui était vraiment assez intéressant, notamment avec Julien Philippe hein, qui n'hésitait pas à aider.
Surtout qu'historiquement la Quick Step généralement c'est plutôt une équipe qui performait en montagne.
Ouais, effectivement, montagne, et notamment avec notre ami Julien Philippe. Toi Max, t'en as pensé quoi de cette performance de Mark Cavendish?
Bon, en tout cas c'est bien c'est un coureur qu'on a l'habitude de voir. Moi je crois que j'ai toujours ou du moins ça fait très longtemps que son nom me parle, que j'entends son nom même quand je regardais plus jeune le Tour de France. Donc de voir qu'aujourd'hui il a égalé le record de victoire d'étape, c'est quelque chose. Et puis ouais, c'est bien qu'une équipe décide de pousser un sprinter et voilà, une équipe qui voit qui n'ira pas au bout au général, au moins va pousser son sprinter pour gagner des étapes. Et donc c'est aussi cool de voir le cyclisme sous cet angle-là.
Très bien messieurs.
Moi, j'avais juste une petite question parce que il y a eu beaucoup de comparatifs qui ont été faits entre les deux pour leurs résultats. Est-ce que vous pensez réellement qu'on peut les mettre sur le même niveau en termes de palmarès?
Qui Merckx et Cavendish. Je pense que c'est surtout ce qui est particulier, c'est que c'est des époques différentes et surtout des coureurs différents. On a un Cavendish qui a gagné que les étapes de sprint, alors que Eddy Merckx était capable de gagner
chose. C'est un coureur dit complet, ouais.
Ouais, c'est ça. Et voilà, mais après peut-être aussi quand on voit ce que gagne comme étape Pogacar, qui en a gagné comme 3 cette année à 22 ans, plus celle qu'il a gagnée l'année dernière, il pourrait aussi faire un petit peu justement comme Merckx, plutôt en mode grimpeur. Donc je pense que les victoires d'étape elles sont gagnables entre guillemets en termes de nombre comme ça, soit par des sprinteurs, soit par des coureurs, soit complets, soit de grimpe, on va dire. Mais ouais, effectivement, c'est, je sais pas s'ils sont au même niveau. Je pense que quand même un cycliste complet comme Merckx, ça devait être quand même plus intéressant à regarder que Cavendish, même si on n'enlève pas tout son talent pour le sprint.
Ouais, très difficile de comparer deux époques, parce que déjà le cyclisme n'avait rien à voir. Et ouais, par contre, c'est sûr qu'un mec de montagne, le fait qu'il gagne plus de beaucoup de courses, ça doit être plus impressionnant qu'un mec qui gagne des courses au sprint, même si on n'enlève rien à Cavendish, comme tu l'as dit. Mais ouais, t'as parlé de Pogacar. À voir si sur les 10 prochaines années il arrive à garder ce petit train là. Enfin, on parle de vélo, mais on parle de train aussi. Hein. En fait, ce qui compte surtout, c'est la longévité. Hein. Que ce soit un sprinter ou un gars qui va jouer le général, si sur 8-10 ans il a un bon niveau, voire un très bon niveau, bon, bah là, le nombre de victoires d'étape va s'accumuler. Et pourquoi pas voir Tadej Pogacar titiller ce record là dans les 7-8 prochaines années, pourquoi pas.
Très bien, on va marquer tout de suite une pause musicale et on reviendra pour vous parler de l'Euro qui s'est donc terminé sur une victoire italienne. On débriefera l'ensemble du tournoi.
Et du coup, on va écouter les trois accords avec la chanson hawaïenne. Ça va mettre un peu de soleil, même si on en a déjà pas mal aujourd'hui.
De retour dans les studios de Radio G pour la suite de votre émission Génération Sport. Il nous reste ensemble quelques 40 minutes pour parler de l'actualité sportive. On va commencer par on parlera JO plus tard donc dans l'émission, mais là on va revenir un petit peu sur l'Euro avec cette victoire italienne au tir au but face aux Anglais en finale à Wembley. La victoire donc 3-2 des Italiens après un score de parité au terme des 120 minutes, un partout entre les deux équipes. Luke Shaw avait ouvert le score à la deuxième minute de jeu après l'égalisation de Leonardo Bonucci à la 67e. Et puis voilà, effectivement, donc ces tirs au but remportés par les Italiens. Également, pour les demi-finales, l'Italie avait battu l'Espagne et l'Angleterre avait battu notamment le Danemark. Voilà, messieurs, sur l'ensemble du tournoi, quelle a été votre impression globale sur la qualité de football, sur ce qui s'est passé de bien, de mal? On reviendra peut-être plus tard sur vos coups de cœur et vos coups de gueule, mais de façon globale, est-ce que vous avez pris du plaisir durant cet Euro?
Ça faisait honnêtement longtemps que j'avais pas ressenti une compétition de football aussi mauvaise. Je me suis vraiment très très peu amusé dans cet Euro. J'ai trouvé qu'il y avait une qualité de jeu qui frôlait le ridicule par moment, hein, quand on voit les derniers résultats lors de la phase finale et qu'on voit les derniers matchs qui se terminent au pénalty, qui se terminent aux prolongations, c'est assez affligeant. Alors ça s'explique par un truc tout bête, c'est l'augmentation considérable du nombre de matchs que les joueurs réalisent par saison. Mais ouais, et puis si on rajoute à ça le parcours catastrophique de l'équipe de France, ça rajoute une pointe négative à cet Euro. Mais voilà, si on enlève ça, ouais, vraiment j'ai été très peu conquis par cette compétition. Victoire italienne méritée. Ouais, quand on voit que l'Angleterre va en finale avec un tel football, pareil, on voit l'Espagne aller en demi-finale avec un mauvais football. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser. Et ouais, non, vraiment, je me suis vraiment pas amusé pendant cet Euro.
C'est vrai que
je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai trouvé cet Euro déjà, dans son format.
Plus le format
réel. Le format complètement idiot. Merci Michel Platini. Puisqu'il ne faut quand même pas l'oublier.
On rend à César ce qui appartient à César.
Voilà, non. Puis en plus, c'est son idée au départ. Ça part d'une idée qu'il voulait fêter la création de l'UEFA d'une manière sympathique, selon lui, en rendant hommage et en rendant soi-disant la compétition accessible au plus grand nombre de villes. Ok, il y a la situation sanitaire, c'est tombé au mauvais moment.
Ouais.
Mais dans tous les cas, je pense que ça aurait été le même constat. Ça aurait été compliqué de mettre les équipes à égalité. Hein. Bon, quand on voit finalement l'Angleterre faire un parcours à domicile.
Ah bah, les quatre demi-finalistes, ces quatre pays-là ont joué leurs trois matchs de phase de poule à la maison. Donc ça veut tout dire.
Oui, ouais, non.
Ça veut clairement tout dire.
Après, ça ne joue pas normalement sur le fait de la qualité des matchs.
D'un autre côté, même si ton argument est valable, Max, c'est l'Espagne et le Danemark, je pense notamment à ces deux pays-là, n'ont pas connu une phase de groupe incroyablement bonne. Je crois que les deux terminent à 4 points chacun. Même pour le Danemark, ils ont gagné que 3 points. Ils se qualifient parce que voilà, ils ont été meilleurs, on va dire, que notamment la Russie ou d'autres. Mais effectivement, ouais, ça ne leur a pas bénéficié en tout cas sur certains points. Mais c'est vrai que c'est un heureux hasard, effectivement.
Oh non, c'est loin.
Oui,
loin,
mais voilà, c'est ironique quand je dis ça. Mais effectivement, bizarrement, on revoit les 4 qui jouent à domicile être en demi-finale. C'est vrai que c'est assez particulier. Puis surtout, effectivement, les Anglais qui jouent leur 8e, leur demi, leur finale à domicile. Bon, voilà. Effectivement, ça fait beaucoup.
Voilà. Après, il y a eu quand même, heureusement, quelques rencontres qu'on a pu faire vibrer de par leur scénario. Pas forcément sur, hélas, la qualité du jeu, mais ouais, dans un. C'est vraiment un euro, oui, médiocre. Ouais,
ouais, messieurs, effectivement, je vais être d'accord avec vous sur le fait que, pour moi, il a été décevant, cet euro. Je mettais beaucoup d'attentes dans cet euro. Ça permettait de retrouver le football des nations 3 ans pardon, après la dernière compétition. Mais effectivement, ouais, l'euro n'a clairement pas été... voilà, je pense qu'il y avait un faux rythme dans cette phase finale où on s'est... Après, peut-être que nous, Français, forcément éliminés en 8e, on s'y intéressait moins, cet euro, à partir des quarts. Mais effectivement, je trouve que effectivement, les quarts de finale, on va dire, avaient quand même moins d'importance. C'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'éliminations de gros pays. Mais effectivement, ouais, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est moins, on va dire, intéressant de voir autant de prolongations et autant de séances de tir au but. Même si ça peut être épique quand on est le pays qui vit ça, qui vit des victoires comme ça, ça reste quand même très pour ceux qui suivent le foot, ça reste quand même assez pénible de voir beaucoup de prolongations, beaucoup de séances de tir au but. Au final, ça devient un peu épuisant. Effectivement, ouais, il y a eu des grosses nations qui ont un peu déçu. Ouais, l'Angleterre dans le jeu, l'Espagne qui n'arrivait pas à attaquer. Voilà, et puis au final, ouais, effectivement, la France, forcément. la France, l'Allemagne, le Portugal qui ont été un peu décevants, chacun à leur manière. Et puis effectivement, par contre, l'Italie reste quand même un bon champion. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais c'était une équipe qui, pour moi, en tout cas, produisait l'un des meilleurs jeux de cet Euro.
Ouais, bah une finale, une demi-finale assez étrange de la part de l'Italie, où on a eu l'impression qu'ils n'arrivaient pas à développer leur jeu. Contre deux équipes qui, du moins donc, dans le jeu, qui étaient vraiment inférieures. Donc l'Angleterre en finale et l'Espagne en demi. Mais malgré ça, ils ont quand même, bah voilà, il y a une part de chance aussi, puisqu'il y a deux victoires consécutives au tir au but. Donc, mais voilà, sur leur tournoi, c'est mérité. Il y a eu des joueurs qui se sont révélés. On en parlera peut-être plus tard dans nos tops et nos flops. Mais ouais, pour moi, je ne voyais pas une autre équipe gagner ce tournoi à part l'Italie.
Non, puis même, enfin, il n'y a pas eu de grosses discussions, de débats autour de leurs différentes victoires, contrairement à l'Angleterre. L'Angleterre, il y a quand même le fameux penalty en demi qui est très litigieux au final.
Ouais, ça fait pas beaucoup parler.
Pas que pour la faute, puisque chose qui a été moins dit, c'est qu'il y a eu quand même deux ballons.
Ouais.
Et ça a été, mais bon, c'est pareil, c'était sur toute la. Je crois que pour une fois, c'est indirectement pas les arbitres qui sont en cause, mais c'est la VAR. La VAR qui a été utilisée de façon incompréhensible durant cette compétition. Je crois que là, c'était la meilleure publicité pour la dégager, quoi.
Effectivement, qui a été très peu utilisée, on en avait un petit peu parlé. Il y avait beaucoup moins de fautes sifflées, c'était sûrement une volonté de l'UEFA de laisser plus de jeux et d'arrêter de siffler beaucoup de pénalties. C'est aussi, ça avait été aussi pendant la saison de Ligue 1, Ligue des Champions, etc., que dès qu'il y avait semblant de pénalty, on sifflait le pénalty. Mais des fois, bon, quand dès le premier match, on voit, je crois, trois fautes de main turque et qu'il n'y a pas pénalty, c'est vrai que voilà, on peut quand même demander un arbitrage un peu plus sévère sur certains points. On va peut-être du coup passer au jeu des coups de cœur et des coups de gueule. On terminera par les coups de gueule parce que je pense qu'il va y en avoir des pas mal. Au niveau des coups de cœur, je vais commencer par toi, Max, qui est un joueur, une équipe, un fait de jeu, je sais pas, quelque chose qui t'a plu dans cet Euro, ce qui t'a plus plu en tout cas.
On a le droit à un ou plusieurs coups de cœur.
Oh, tu peux aller à plusieurs, on est sympa.
Alors j'en ai 14. non, là,
donc cette émission sera en trois parties.
Tout de suite, il y en a deux qui me viennent en tête. D'abord un joueur, je ne sais pas si vous avez pensé à lui, mais moi je vais dire Luc Shaw, qui donc a fait un tournoi monstrueux. Voilà, il marque en finale en plus. C'est un joueur qu'il faut savoir qui a joué avec des côtes en moins.
Ouais.
Je crois que c'est en huitième de finale où il a été blessé. Il jouait avec des côtes en moins, donc durant la fin du tournoi. Ouais. Donc ça rajoute quelque chose d'exceptionnel à son parcours. Et puis voilà, il y a 5-6 ans de ça, il se fait une terrible blessure. Tout le monde lui prédit de ne plus jamais jouer au football. Ses entraîneurs, notamment Mourinho, n'y croient pas du tout. Et puis voilà, c'est un joueur qui revient, qui fait une très grosse saison avec Manchester United, qui revient à son top niveau, qui retrouve une place de titulaire en Angleterre et qui est en tout cas pour moi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur anglais du tournoi. Donc très content, parce que c'est un joueur que j'aimais bien avant, donc très content de le revoir à ce niveau-là. Il y a d'autres joueurs qui ont marqué ce tournoi également, mais voilà, moi c'est mon coup de cœur du tournoi. Et puis si j'ai une équipe, bah c'est forcément le Danemark, qui a vécu un moment tragique lors de la première journée, hein, avec ce malaise cardiaque d'Eriksen. Et puis on a vu une équipe après qui était animée justement par cette volonté de jouer pour Eriksen, et qui va quand même en demi-finale de l'Euro. C'est exceptionnel pour un pays comme ça, et qui aurait même pu aller au bout de cet Euro, hein, parce qu'on a vu que les derniers matchs étaient très serrés, avec des scores, des différences de buts vraiment peu importantes. Le match contre l'Angleterre, ça s'est joué sur un fait de jeu. Mais voilà, je pense que les Danois sont très fiers de leur tournoi. Ils peuvent l'être. Donc voilà, moi, si j'ai deux grosses satisfactions, c'est Luc Shaw d'un côté et la sélection danoise de l'autre.
Cédric.
Alors, moi, je dirais la Suisse et le Danemark.
Ok.
Pour leur parcours respectif. Le Danemark, encore plus avec ce qui s'est passé. Je crois que la belle histoire, c'est s'ils avaient joué une place de troisième, ils l'auraient mérité, je trouve. Mm-hmm. Voilà. Ouais, surtout ça que je vais retenir. Après, par rapport à la finale, j'ai trouvé aussi Verratti. Un Verratti comme ça, je le veux tous les jours à ce niveau-là au PSG. Hein. C'est, enfin, en tout cas, ça fait du bien, je trouve, de voir un comportement comme il avait. Donc, en tout cas, ouais, pour tout ce qui est positif, surtout ça, quoi.
Ok. Pour moi, effectivement, bah, je pense que le Danemark fait l'unanimité. Je voulais d'emblée le citer, mais effectivement, vous avez mis le doigt dessus. Mais effectivement, ouais, une équipe, surtout moi, effectivement, outre Eriksen, c'est une équipe qui proposait beaucoup de football, que ce soit avant le malaise d'Eriksen, et qui en a prouvé, enfin, a prouvé également qu'elle savait jouer au football. Si je dois retenir un joueur de cette compétition danoise, on va dire, c'est celle de Joachim Mellem. Le latéral gauche donc danois qui a fait beaucoup de bien et qui notamment a gratifié le monde entier d'un caviar pour Kasper Dolberg avec donc lors du quart de finale face au Tchèque, un caviar extérieur qui termine donc en passe décisive pour le joueur de Nice. Mais ouais, pareil sur le match contre le Pays de Galles, ça jouait au football. Sur le match de la Russie, ça jouait également. C'est une équipe, ouais, j'ai essayé de regarder le plus de matchs possible et c'était vraiment une équipe plaisante à jouer, qui joue le pressing à fond, qui n'hésite pas à prendre des risques en attaque, à faire jouer un peu tout le monde, et il y a des joueurs qui ont réussi à se sublimer. Braithwaite, Dolberg, effectivement, Højbjerg aussi qui joue à Tottenham. Bon tournoi aussi également pour Schmeichel dans les buts. Christensen également, le joueur de Chelsea. Voilà, il y a un collectif évidemment en plus par rapport à ce malaise cardiaque d'Eriksen. Après ce coup dur, il y a eu également football qui a repris ses droits et c'était pour moi un très bon point positif là-dessus. Effectivement, ouais. Sinon, dans mes joueurs, on va dire dans un joueur phare, tu citais Verratti, moi je vais citer un de ses coéquipiers, je vais citer Federico Chiesa que j'aime beaucoup déjà, que je mets beaucoup déjà en tout cas à la Juventus cette année, qui avait été pas mal de fois décisif dans les gros matchs et puis qui a été, que je trouve qu'il est un joueur qui a beaucoup de qualité, très rapide, bon techniquement et avec une bonne finition, et il a réussi à marquer notamment un très beau but contre l'Espagne. Voilà, ça a été un joueur vraiment pour moi décisif et notamment aussi en 8e contre l'Autriche. Donc voilà, ça a été mon coup de cœur en tout cas, qui a été confirmé lors de cet Euro. Maintenant on va passer au coup de gueule. Peut-être Max, que tu en as un petit peu plus que 14
De tête, non, je vais en dire 3 maximum. Le premier, c'est bien sûr l'équipe de France. On s'attendait pas en fait, hein, le tournoi n'avait pas commencé qu'on était déjà champion d'Europe, malheureusement. On a joué, on a perdu, on a vu une équipe de France qui durant toute la phase de poule, alors si le premier match était très bon côté collectif, mais voilà, ensuite contre la Hongrie, le Portugal, on a surtout vu des individualités. On a vu des joueurs qui étaient pas à fond dans leur tournoi, et puis le match contre la Suisse, on en a déjà parlé, je vais pas en reparler, mais bref, une grosse déception française quand on voit le comportement de certains joueurs avec les erreurs de coaching de Didier Deschamps. Donc voilà, c'est un tout, et donc grosse déception. Ma deuxième, je vais dire Southgate, l'entraîneur anglais, qui pour moi fait un coaching catastrophique en finale. Comment on peut expliquer comment c'est possible de faire rentrer deux jeunes joueurs qui n'ont pas de confiance en finale d'Euro à la 90e, où leur seul objectif ça va être de tirer un penalty alors qu'ils n'ont pas joué du tournoi. J'ai beaucoup de mal à comprendre, si en plus on additionne à ça les injures racistes que ces deux joueurs ont pris dans le visage suite à cette finale. Ça fait beaucoup. Voilà, pour moi Southgate a raté complètement son coaching et il est en partie fautif de cette défaite en finale. Et puis mon dernier fautif, bon, on en a un peu parlé, hein, c'est l'UEFA, hein, comme d'habitude. Qui voilà, une organisation dans je sais pas combien de pays, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. des équipes qui sont favorisées, qui jouent à domicile, d'autres qui prennent l'avion tous les 2-3 jours pour aller jouer dans plein de pays différents. Ça crée de très grosses inégalités. Si on ajoute à ça Wembley, le fait qu'ils n'arrivent pas à organiser tout simplement un événement comme celui-là avec de nombreux débordements, des spectateurs anglais qui n'ont même pas payé leur place, qui se retrouvent dans le stade. Si on ajoute à ça la polémique du stade allemand qui n'a pas pu être éclairé aux couleurs LGBT, et puis si on rajoute à ça les spectateurs hongrois qui lancent des injures et des insultes racistes, mais qui, l'UEFA ne bouge pas le petit doigt, ça fait beaucoup quand même. Et vous savez, on adore taper sur les doigts de l'UEFA, mais là, une fois de plus, ça a été une. Ils se sont tournés au ridicule, voilà. Ils sont passés pour des guignols, une fois de plus, et il faut le dire. Et donc je vais m'arrêter là, parce que sinon, il fera nuit quand on sortira des studios, mais voilà. Voilà pour mes flops.
Cédric.
Je vais te rejoindre tout de suite, sur le comportement de certains supporters. Du coup, ce qui en sort, c'est que la Hongrie est quand même sanctionnée très fortement, puisque c'est une amende de 100 000 euros, plus 3 mois à huis clos. Dans le même temps, les supporters anglais, qui sont quand même réputés pour ça, c'est bien le problème, et on a vu encore leur comportement le jour de la finale. C'est pas des supporters italiens qui ont essayé de forcer les barrages de sécurité pour entrer dans le stade, hein, c'était bien des Anglais, qui sur la demi-finale sont sanctionnés d'une amende, j'ai pas le tarif en tête, en sifflant l'hymne du Danemark, et qui remettent ça le jour de la finale, derrière apparemment aucune sanction ou augmentation de la sanction. De poids de mesure, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que siffler une hymne, c'est moins grave que faire des cris de singe, d'avoir des comportements proches de factions un peu obscures, ok, mais je pense que voilà, il y a aussi un gros travail là-dessus de l'UEFA à faire un peu le ménage. Je reviens aussi sur ce que tu disais par rapport à l'éclairage du stade allemand. Ce qui a été un petit peu comique, en tout cas moi ce qui m'a fait sourire, c'est la petite voiture qui a amené le ballon était aux couleurs LGBT.
Ah, tu vois, j'avais même pas remarqué ce.
Si, si, en fait, sur le bas de caisse, c'était les couleurs. Donc, est-ce qu'ils ont voulu se rattraper? Est-ce que c'est une volonté aussi du partenaire de la marque de la voiture? Enfin, en tout cas, voilà. Il y a une communication là-dessus très, très ambiguë. Après, ouais, dans les points négatifs, l'Angleterre, qui a pour moi été favorisée et qui a pas eu un super jeu. Et on voit ce que ça a donné aussi au final, le racisme qui est revenu. C'est quand même hallucinant que leurs propres joueurs se fassent traiter comme ça. Comme tu le disais, des jeunes qui vont.
Ils ont notre âge, hein. Rashford et Sancho, ils ont vraiment. Et Saka aussi, ils ont notre âge.
Voilà, parce qu'au-delà du problème du sélectionneur qui fait ses choix, ils ont quand même eu le courage d'aller tirer ses pénalties. On sait jamais comment ça se passe, hein. C'est vraiment la loterie. Sur un coup, ça passe, ils sont les héros nationaux. Là, on les traite comme des moins que rien.
C'est ça.
Je pense qu'au même âge, on me demande d'aller tirer
le penalty.
La penalty dans une finale, je me pose la question si j'y vais ou pas, quoi.
Bah, c'est ça. Forcément, surtout, comme Max le disait, il y a un manque de confiance chez ces joueurs-là. Ils ont joué quasiment rien du tournoi, donc c'est un peu décevant de les voir rentrer à ce moment-là et on leur dit tu vas tirer le penalty le plus important, peut-être de l'histoire du football anglais. C'est quand même assez grave.
Et puis surtout, c'est ça, c'est pas les joueurs qui ont voulu tirer. Il y a d'autres joueurs qui auraient voulu tirer, mais qui n'ont juste pas eu le choix. Le coach a décidé de A à Z des tireurs. Je pense à Jack Grealish notamment, qui a déclaré après en conférence, enfin à la télé anglaise, que lui, son seul souhait c'était de tirer et qu'il était prêt pour ça. Donc comment c'est possible de pas donner un tir au but à un gars que t'as fait jouer pendant tout le tournoi quasiment, qui fait en plus de ça pas un tournoi extraordinaire, mais qui fait un bon tournoi, par rapport à un mec qui a vraiment 10 minutes dans les jambes sur tout le ton tournoi. C'est, ouais, c'est un coaching vraiment très étrange. Et ouais, pour moi, ça a été un des coups durs anglais durant cette finale.
Puis comme tu disais, autant du côté français, on était sûr de ramener la coupe à la maison. Eux, la finale, avant même de l'avoir jouée, c'était pour eux.
Ouais. Pour moi, on va essayer de terminer rapidement sur ce chapitre Euro. Effectivement, en point négatif, sans revenir dessus longtemps, parce que vous l'avez fait très bien fait, messieurs. Je vais dire, effectivement, ouais, l'organisation de l'UEFA, ce tournoi avec plusieurs villes, franchement, inintéressant. Enfin, en tout cas, l'idée est inintéressante. Plus, effectivement, la polémique sur le drapeau LGBT, effectivement, vous avez très bien réagi dessus. Il y a également, donc, effectivement, donc le jeu anglais qui a été très décevant, puis voilà, on les voit aller jusqu'en finale en produisant un jeu qui est vraiment pas ouf. Donc voilà, effectivement, très déçu de la part de ces deux choses là, mais vous avez vous êtes revenu dessus. Moi, je dirais une nation quand même. C'est il y a pas mal de nations qui ont chuté, notamment le Portugal, l'Allemagne, mais en huitième, pour moi, la déception, ça a quand même été les Pays-Bas. En tout cas, si je me mets à la place des Néerlandais, ils ont un boulevard devant eux. C'est-à-dire que voilà, quand tu vois la République tchèque, ça joue pas mal, mais c'est pas, enfin, ça reste quand même supérieur individuellement les Pays-Bas face aux Tchèques. Puis derrière, il y a Danemark, Pays de Galles à jouer, même si effectivement également le Danemark joue bien. Individuellement, toujours, les Pays-Bas sont capables. En tout cas, les Pays-Bas n'affrontent pas de gros cadors. En tout cas, n'affrontaient pas de gros cadors avant les demi-finales. Donc, c'était, je pense, une grosse déception pour eux. Et puis, voilà, il y a des très bons joueurs qui avaient très bien débuté ce tournoi, qui ont complètement déchanté après cette élimination. Enfin, durant cette élimination, surtout, le match s'est joué sur un fait de jeu, c'est ça qui est assez dommage, sur ce fameux carton rouge de Ligt, et qui d'ailleurs faisait un bon match jusqu'à ce que. Il décide tout simplement d'enlever la balle avec la main, donc c'est assez particulier comme méthode de défense, mais voilà, ça a été sanctionné.
Et oh, ça a bien marché hein, pour certaines qualifications, hein, pourquoi pas.
On n'en parlera pas, mais effectivement, pour le coup, ça n'a pas marché. Les Pays-Bas sont sortis face à la République tchèque. Je pense que ça a été une grosse déception pour ce groupe. Et puis effectivement, on peut en revenir sur la France et l'incompréhensible défaite, mais bon, ça ne fera que remettre le couteau dans la plaie. Bon,
je pense qu'on aura plus de temps d'en reparler la semaine prochaine, voilà. Avec ce qu'on a appris suite à la compétition.
Voilà, et puis même il y a la Ligue des Nations qui arrive en octobre, on pourra reparler du futur, la Coupe du Monde, etc.
Ce qu'on sait de sûr, c'est que Deschamps reste
effectivement,
pour l'instant jusqu'à la Coupe du Monde.
Deschamps qui a été maintenu.
Oui, moi j'aimerais rebondir sur ce que tu disais par rapport aux Pays-Bas. Moi j'avais aucune attente en cette équipe, pour la simple et bonne raison que leur dernière compétition c'était en 2014. Donc ça remonte pour une équipe de foot, là tous les joueurs qui étaient sur la pelouse n'avaient aucune expérience. Alors il y en avait deux, il y avait Blind, il y en a forcément un ou deux autres, mais
c'était Kellenbourg peut-être.
Ouais, mais voilà, pour moi c'était vraiment une équipe sans expérience, et pour moi une équipe sans expérience ne peut pas aller au bout, hein, c'est clair. Alors oui, ils auraient dû gagner ce huitième, ils auraient peut-être pu même gagner ce quart. Mais pour moi, c'est pas une très grosse surprise de les voir chuter à ce niveau-là. Parce que, ouais, les joueurs, ils n'ont aucune expérience en sélection. Et pour une sélection qui ne joue pas depuis 2014 dans les grandes compétitions, c'est autre chose qu'une équipe comme le Danemark ou la République tchèque, qui, même si ce n'est pas une très grande nation de l'histoire du football, se qualifie à chaque fois pour les compétitions. Et du coup, emmagasine de l'expérience. Pour moi, ça y a beaucoup joué pour les Pays-Bas.
Et à noter également que l'entraîneur Franck de Boer était catastrophique. Il était très décrié du côté des Pays-Bas. Et effectivement, il a complètement également lui aussi raté son tournoi. Effectivement, ouais, à l'image de son équipe. Effectivement, moi, je te rejoins. Il y a forcément un manque d'expérience. Après, pour moi, la qualité y était. Et c'est pour ça que je dirais pas forcément. Je dirais que c'est une déception si on se place du côté du spectateur néerlandais, du côté observateur du foot. Effectivement, bon. Effectivement, tu le disais, il n'y a pas assez d'expérience, mais bon, quand même, quand on est néerlandais, on peut s'attendre à mieux dans une partie de tableau avantageuse. On va changer d'horizon et on va aller du côté de Tokyo avec ces fameux JO qui commencent, on va dire officiellement dans 3 jours, hein, mais les premières compétitions vont être démarrées demain.
Ah oui.
Effectivement, avec des matchs de football féminin. À noter également que
et du baseball.
Il faut savoir que les Français masculin hein, de football commence leur tournoi dès c'est jeudi du coup ouais, jeudi matin et malheureusement l'équipe de France féminine de football ne s'est pas qualifiée pour les JO donc surtout ce qui fait l'actualité à ce moment du côté de Tokyo c'est surtout effectivement cette grosse inquiétude qui règne toujours à un jour des débuts de compétition, il règne toujours une inquiétude par rapport à l'augmentation des cas de Covid-19, mais surtout la potentielle annulation des Jeux. Ce serait quand même un assez gros retournement de situation. Effectivement, donc ça était tombé aujourd'hui. Le comité d'organisation des JO de Tokyo se dit attentif donc à cette augmentation de cas. Voilà, hein, pour citer notamment donc l'un des organisateurs, donc Toshiro Muto, nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera avec le nombre de cas de coronavirus. Nous poursuivrons donc les discussions s'il y a un pic de cas. À ce stade, les cas de coronavirus peuvent augmenter ou diminuer. Nous réfléchirons donc à ce que nous devons faire lorsque la situation se présentera. Mais effectivement, voilà, c'est très inquiétant à quelques jours des Jeux. C'est vrai que est-ce que vous voyez une possible, encore une fois, annulation des Jeux? Est-ce que vous y croyez un petit peu?
Après, il faut savoir que le Japon, c'est quand même un pays où ils ont tendance à surévaluer des fois leur décision. Et là, ils voient qu'il y a une augmentation. Après,